La nouvelle année a commencé dans le froid pour les habitants de la bande de Gaza. Ils ont dû vivre avec seulement 4 heures de chauffage par jour contre 8, sous l'effet conjugué d'une hausse de la demande causée par l'hiver et d'une querelle entre organisations palestiniennes. L'unique centrale électrique de l'enclave palestinienne a été confrontée à des pénuries de carburant en raison d'un différend avec l'autorité palestinienne dominée par le parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas. C'est cette autorité qui gère les achats de carburant en provenance d'Israël, car les autorités israéliennes ne traitent pas directement avec le Hamas, qu'elles considèrent comme une organisation terroriste. La querelle entre la centrale et donc le Hamas, d'une part, et l'autorité palestinienne, d'autre part, porte sur des factures impayées et des taxes imposées par l'autorité palestinienne sur le combustible. La pénurie d'électricité a en tout cas poussé des milliers de Gazaouites, fait rare, à manifester leur mécontentement dans plusieurs camps de Gaza. L'occasion pour nous de revenir sur les capacités de gestion du mouvement islamiste arrivé au pouvoir en 2007. Marie Duhamel revient sur les circonstances de l'arrivée du Hamas à Gaza avec Ricardo Bocco, professeur de sociologie politique et spécialiste du Proche-Orient à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève.
Le Hamas était déjà largement présent à Gaza. Il avait gagné les élections administratives. Puis, en janvier 2006, les élections législatives. Mais ensuite, il y a eu différents niveaux d'affrontement entre le Fatah et le Hamas, notamment dans la reconnaissance du gouvernement du Hamas et donc de la perte du Fatah, ce qui a conduit également la communauté internationale à boycotter les élections. Et après différentes tentatives de médiation, il y a eu en gros un affrontement militaire où le Hamas a physiquement chassé les milices du Fatah. Donc, depuis 9 ans et demi, le Hamas est officiellement au pouvoir, il contrôle le territoire de Gaza. Enfin, il le contrôle. Entre-temps, il a continué à avoir des batailles avec l'occupant israélien.
Qu'est-ce qui fait que les Palestiniens aient soutenu le Hamas? Quelle idéologie c'était soutenir?
Il y avait deux questions fondamentales. Tout d'abord, le fait que l'autorité palestinienne incarnée par le Fatah n'a pas délivré de processus de paix. De 1993 à 2006, moment de la victoire électorale du Hamas, pendant cette période, l'autorité palestinienne n'a pas été capable de donner la paix et un État aux Palestiniens. Deuxième élément, c'est la corruption au niveau de l'autorité palestinienne et du Fatah, ce qui a amené une partie de la population palestinienne soit à avoir un espoir dans l'idéologie du Hamas, soit d'appuyer le Hamas en espérant un changement. Mais ce n'est pas que la population est devenue toute soudainement djihadiste, islamiste. Non, il y a différents degrés, il y a différents groupes dans le Hamas et à côté du Hamas. Cela pour dire que le succès électoral est un vrai succès. D'ailleurs, les représentants de l'Union européenne qui surveillaient en quelque sorte le bon déroulement des élections ont tous dit que les élections s'étaient déroulées de la façon la plus correcte possible. Il n'y a pas eu de fraude.
Mais qu'est-ce qui définit le Hamas?
Le Hamas palestinien à Gaza est un dérivé des frères musulmans d'Égypte. On a des frères musulmans de ces mêmes tendances en Jordanie, en Palestine, mais également dans d'autres cas de la région. Et les frères musulmans, c'est le plus vieux mouvement islamiste à l'époque moderne, qui s'inspirait d'une lutte anticoloniale contre les Britanniques en Égypte. D'ailleurs, les frères musulmans naissent sur ce terreau. Maintenant, la question de et les frères musulmans par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de l'État islamique, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas cette volonté de créer un État qui, de surcroît, ferait les choses que nous avons vues en Syrie ou en Irak perpétrées par l'État islamique.
Est-ce qu'il y a quand même l'idée d'un nationalisme qui serait obtenu par les armes?
Eh bien, disons, là, vous mettez exactement le doigt sur une chose très importante. Le Hamas a repris le drapeau nationaliste du mouvement national palestinien, qui en gros avait été tué, entre guillemets, au moment de la signature des accords d'Oslo. Des accords excluant des bases juridiques de la négociation pour la paix, toutes les résolutions précédentes en 1967. C'est-à-dire que, par exemple, la question clé du droit au retour des réfugiés, la résolution de 1948 des Nations Unies, celle-là n'était pas prise en considération dans le pourparlers de paix, qui veut dire que la bonne moitié de la population palestinienne en Palestine et dans la diaspora se voyait soudainement privé d'un droit au retour d'un point de vue juridique. C'est énorme. Donc le Hamas a clairement repris progressivement l'étendard de la résistance à l'occupant israélien.
Il y a bientôt 10 ans, le Hamas remportait une victoire aux élections administratives, puis aux législatives en janvier 2006, dénonçant le Fatah rongé par la corruption et incapable, en plus de 10 ans de pouvoir, d'offrir la paix et un territoire aux Palestiniens. Victorieuse, la branche palestinienne issue de la mouvance islamiste des frères musulmans égyptiens revendique la présidence de l'autorité palestinienne. Le Fatah n'y consent pas, suivi par la communauté internationale inquiète. Des médiations interpalestiniennes échouent, le Hamas décide de passer à l'action et chasse les milices du Fatah de la bande de Gaza. 10 ans après, le Hamas est toujours au pouvoir à Gaza. Bénéficie-t-il toujours d'un soutien populaire? Ses relations avec le Fatah se sont-elles améliorées? En tout cas, le mouvement résiste. C'est ce qu'explique Ricardo Bocco.
Le gouvernement du Hamas, sur le plan international, entre guillemets, est un État occupé et il subit 3 guerres majeures en 10 ans, avec invasion de l'armée israélienne et 2 guerres mineures avec bombardements, etc. Donc c'est un gouvernement en guerre. Deux, dans une lutte interne, parce qu'ils n'ont pas le même matériau militaire que les autres. Donc ils ont des roquettes, très bien. Mais il y a vraiment une situation non balancée entre les deux partenaires de guerre. Cela dit, la question c'est qu'eux, ils perdent des batailles, mais ils n'ont pas encore perdu la guerre. C'est plutôt une défaite du point de vue israélien de ne pas être arrivé, malgré tous les moyens utilisés sur le plan international, de la mobilisation de la communauté pour boycotter, toutes les questions locales, contrôle de l'économie de Gaza, asphyxie, enfin bon. Malgré tout ça, Israël n'a pas arrivé à assurer la sécurité de ses citoyens. Donc, Hamas a une légitimité que l'autorité palestinienne aujourd'hui n'a pas. Et la succession au président Mahmoud Abbas sera une question cruciale.
Est-ce que selon vous, les tensions interpalestiniennes sont dues à des problématiques humaines, interpersonnelles, ou est-ce qu'il y a toujours un problème de fond?
Alors, il y a les deux. La Palestine, c'est finalement un tout petit pays. Et aujourd'hui, quand on parle de lutte intra-palestinienne, on parle non pas de la diaspora palestinienne au Liban, Syrie, Jordanie, Europe, Amérique latine. On parle juste de ceux qui sont là, entre Gaza et West Bank. Ils ne sont que sur une partie du territoire et n'arrivent pas à trouver une entente. Enfin, ou mieux, les stratégies israéliennes de division ont eu raison de ce mouvement national palestinien. Et ça, c'est une stratégie de vieille date. La situation en Afrique du Sud, pour le gouvernement israélien, était très importante. C'est-à-dire, autant le gouvernement blanc en Afrique du Sud était arrivé à créer l'Inkatha, l'équivalent, si vous voulez, du Hamas auprès des Zoulous et du Parti du Congrès national africain, pour créer la désunion chez l'ennemi, autant les Israéliens sont arrivés à le faire avec le Hamas et le Fatah.
On dit qu'aujourd'hui, il y a néanmoins des négociations directes entre Israël et le Hamas.
Tout le monde se parle, malgré le fait qu'ils sont en non-speaking terms. Et ça fait partie aussi de la stratégie. Lorsqu'il y a une question, supposons la présidence de Mahmoud Abbas qui obtient une reconnaissance au niveau international par rapport à X, Y raisons, il y a de l'autre côté le Hamas qui obtient une relâche de prisonniers ou quelque chose par Israël à travers un contact direct. Donc façon constante du pouvoir israélien de dire mais il n'y a pas d'interlocuteur chez les Palestiniens parce que moi je parle avec un, je parle avec l'autre, mais enfin eux ils ne sont pas d'accord entre eux, etc. Donc c'est une situation qui n'est destinée qu'à fonctionner dans l'empoisonnement.
Est-ce qu'aujourd'hui, l'objectif numéro 1 pour le Hamas, c'est d'obtenir un désenclavement progressif de la bande de Gaza?
Oui, mais il le négocie comment? Le Hamas tout seul ou le Hamas au nom d'une délégation conjointe entre l'autorité palestinienne, le Fatah et le Hamas? Finalement, l'objectif est lequel? De créer un État du Hamas indépendant à Gaza, contrôlé à l'extérieur par les Israéliens, ou bien de construire un État palestinien dont le territoire reste à définir, mais où enfin il y a une vision globale de toute la partie de la société palestinienne dans le territoire occupé. Ça, c'est un véritable enjeu et autant la réconciliation est possible, mais à la fois les négociations pour la réconciliation intra-palestinienne sont souvent bloquées. Et comme vous le disiez aussi au début, il y a une question d'hommes. Je disais la Palestine est petite et tout le monde se connaît. Mohamed Dahlan, qui est un des contendants à la succession, qui est un enfant de camp de réfugiés de Gaza, c'est un ennemi numéro un pour le Hamas en termes de l'hiver palestinien possible ou futur.
Le Hamas a tenu, survécu à 3 guerres avec Israël. Il y a évidemment des manques criants pour la population. Est-ce que le mouvement islamiste a encore le soutien de la population ?
Qu'est-ce que c'est Gaza ? Il y a 1 800 000 personnes. De ces 1 800 000, il y en a 1 2 000. C'est-à-dire 2/3 qui sont des réfugiés, assistés par l'UNRWA. Je dis pas seulement parce que l'UNRWA s'occupe des questions de l'aide humanitaire, des écoles, de la santé, des services sociaux, etc. Mais il y a tout le problème du shelter, de la réparation, des maisons détruites, etc. Et là, il y a les Nations Unies qui, à travers OCHA, UNDP, enfin toute la famille onusienne est là, est présente. Mais je veux dire, la situation est d'une détresse folle. Moi, j'étais en 2015, et j'étais en mission pour évaluer des projets, mais sans rentrer dans les détails statistiques, il y en a un qui me semble très, très marquant, la question de la détérioration de la santé mentale. C'est-à-dire que le nombre de suicides a grimpé de façon importante, chose rare. Les divorces étaient chose courante. Et il y a une société déprimée au bord de l'implosion, en même temps que, toujours dans la même Gaza, vous rencontrez des gens qui d'autre part, etc. Mais disons, ces 10 dernières années, la société gazaoui, on ne peut plus véritablement parler d'élite de classe moyenne ou de miséreux. C'est une société qui s'est plutôt nivelée par le bas. Bien sûr, il y a de la corruption là aussi, dont les masses responsables, mais il y aurait beaucoup à dire sur l'économie des tunnels qui a été fondamentale. On a bien voulu laisser, puis à un moment donné, on a décidé qu'on allait stopper ça aussi. Donc, bref, la question, justement, de comment gérer la bande par le Hamas, mais aussi par la communauté internationale, parce qu'il y a pas mal des taxes des citoyens du monde qui vont dans les multilatérales, et donc, ils vont en gros faire quoi ? Soutenir l'occupation israélienne à Gaza ? Enfin, assez problématique, je dirais. Là.
Mais est-ce que les Gazaouites incriminent le Hamas de tous leurs problèmes ou non ?
Non. Bien sûr, le Hamas est responsable d'une série de choses, mais il n'est pas le seul. Ils ont contre les Nations Unies, contre les États-Unis, les Israéliens, les frères arabes, entre guillemets, les Palestiniens du Fatah. Non, je veux dire, il y a divers degrés perçus de responsabilité pour la situation de misère de Gaza.